bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les migrants pris au piège de la souveraineté, comment leur porter secours alors que l'esclavage en Libye interpelle la communauté internationale? Le que faire de la politologue Catherine Vitold-Wenden, auteure de La question migratoire au XXIe siècle, Migrants, réfugiés, relations internationales, un ouvrage paru aux presses de Sciences Po. On la retrouvera après le journal d'Antoine Mercier. Avant cela, le patient anglais, c'est lui, 37 de le matin, c'est encore lui, Tati Daniel, toujours lui, et puis l'amant, Camille Claudel, juste la fin du monde, le talentueux Mr. Ripley, juré au dernier festival de Cannes. Il a écrit la musique d'une centaine de films depuis 1980 et Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard, Gabriel Yared, orchestre à l'écran, en concert ciné avec le London Symphony Orchestra à la Philharmonie de Paris, ce sera le 9 décembre. Le compositeur est pour l'heure notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Gabriel Yared.
Bonjour Olivia.
On vous attrape entre plusieurs projets. Rien qu'en ce moment, vous travaillez sur combien de films ?
Oh, vous savez, je ne travaille jamais sur plusieurs films à la fois. J'ai fait ça au tout début, quand j'ai commencé dans la musique de film, par hasard. Et depuis des années, je travaille sur un film, je dirais un film et demi, ce qui fait trois films tous les deux ans. Parce que, bien que je sois très inspiré et que je puisse vraiment écrire une musique de film en un mois ou en deux mois très facilement, j'ai décidé de consacrer du temps pour pouvoir écrire de la musique pour l'image, mais aussi pour la musique. Et ça, ça demande du temps. Donc, quand je m'investis sur un projet, je m'investis dès le départ, c'est-à-dire dès l'écriture du scénario, et j'accompagne le film tout le long. Et ça ne me permet pas de faire plusieurs films à la fois. En ce moment, je viens de finir un petit film de Rupert Everett, qui a écrit The Happy Prince, sur les derniers jours d'Oscar Wilde en France, à Paris. Et puis, je travaille depuis août 2016 sur un projet de film d'animation de Michel Oslo qui s'appelle Dilili à Paris. Parce que dans les films d'animation, il faut que la musique soit présente dès le départ.
Pour Michel Oslo, que vous aviez rencontré avec Azur et Asnar déjà.
Oui, oui.
Grand réalisateur français d'animation
qui est
en train de travailler sur son prochain long métrage. C'est des années de travail pour un réalisateur
oui.
comme lui. Est-ce que ça l'est aussi pour un compositeur comme vous, un projet comme celui-ci ?
Écoutez, le film d'animation, fait par Michel Oslo, c'est pour moi une œuvre d'art en soi déjà. Donc toute la musique que je peux apporter, évidemment, il faut qu'elle souligne, qu'elle suive bien l'action. Mais en dehors de ça, Michel Oslo est quelqu'un qui est très sensible à la musique comme un tout. C'est-à-dire que avant de l'atomiser et de la morceler en petites scènes, je lui fais entendre ce que sera la thématique générale. Et c'est ça qui détermine notre collaboration future. Une fois que la musique que j'ai composée épouse l'esprit général d'un film, de son film, alors on peut à ce moment-là la morceler et la détailler.
Et voilà déjà en quelques mots ce qui fait votre marque de fabrique, Gabriel Yared. Vous travaillez et composez à partir de l'esprit d'un film, plus que sur les images d'un film. On va y revenir. Rien ne me préparait à devenir un compositeur de musique pour film. Une première vie d'orchestrateur, producteur de variété française avec toutes les voix qui vont marquer l'époque, celle des 70s. Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Sylvie Vartan, Michel Jonas, Françoise Hardy et Johnny Hallyday.
Je n'ai jamais mis les pieds dans une église. Je ne sais pas prier. Des prières, on ne m'en a jamais apprises. Non, jamais.
Jamais, devant personne, je n'ai mis un. Oh, prends ma vie
prends ma vie, Johnny Hallyday, orchestration signée de vous. Cette chanson, ce titre remonte aux années 70. Hystérie hier sur les réseaux sociaux, Gabriel Yared, la rumeur du décès de Johnny Hallyday a couru à nouveau avant d'être démentie par son entourage. Il va bien, il se repose. Cette fièvre Hallyday qui perdure depuis plus de 40 ans, Gabriel Yared, vous l'avez peut-être connu et traversé, orchestrateur arrangeur avant de devenir compositeur. Qu'est-ce que vous avez gardé de ces années? Un rapport instinctif à la musique?
Quand j'ai commencé à faire des orchestrations, je ne connaissais pas grand-chose à la musique. Et je peux dire que c'est grâce à tous ces artistes de musique, de chansons, que j'ai appris, puisque chaque fois que je finissais une orchestration, j'achetais des livres de musique, des partitions d'orchestre, et j'apprenais. Donc je testais des choses dans les orchestrations. Mais cela dit, je me souviens, pour une parenthèse concernant Johnny Hallyday, qu'on lui fiche la paix, parce qu'il est vraiment, c'est un être que j'adore. Il était très intéressé par les orchestrations, par tout cet aspect-là. C'est pas quelqu'un qui venait juste en studio. Je me souviens, pour le projet Hamlet, qui était son projet fétiche, il adorait ce projet de Hamlet, donc écrit par Pierre Grecola et Gilles Thibault, et il venait à toutes les séances d'orchestration, il s'intéressait à ce qui se passait. C'est un homme que j'aime beaucoup et je lui souhaite vraiment longue vie.
Dans ce titre, Prends ma vie, on entend Johnny chanter qu'il n'a jamais mis un pied dans une église. Et derrière, il y a l'orgue qui s'active. Est-ce que c'est l'orgue sur lequel vous avez fait vos gammes, celui de l'université Saint-Joseph à Beyrouth, où vous êtes né? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous revendiqueriez païen comme lui, comme Johnny Hallyday?
Oui, mais je pense que la musique est une religion, vraiment. Et quand on est en conversation avec la musique, quand on est en contact permanent avec la musique, on n'a pas besoin d'apprendre dans les traditions religieuses des choses, parce qu'on vit cette chose sacrée tout le temps. Et bon, j'étais trop nourri probablement de religion chez les jésuites au pensionnat, puisqu'on nous réveillait à 6h30 le matin, on avait 5-6 ans, et on nous emmenait directement à la messe. Et tous les jours, une messe différente, un jour grec-catholique, un jour maronite, un jour latine, etc., toute la semaine. Donc, je ne suis pas très intéressé par ça. Ce qui m'intéressait beaucoup dans la messe, c'était l'aspect orgue, l'aspect harmonium. Donc, et c'est ce que j'ai continué à travailler plus tard.
Les jésuites, ils vous ont nourri de religion, mais aussi de partitions, puisque depuis que vous êtes tout petit, vous avez une passion pour le déchiffrage des œuvres classiques, oui. En commençant par l'œuvre pour orgue de Bach, puis celle de Pachelbel et Schumann et Liszt, qui viendront après. Tout ce que vous trouviez à l'époque, dans la bibliothèque musicale des jésuites, c'est de là qu'est né ce plaisir à déchiffrer une partition, puis l'envie d'écrire votre propre musique avec une langue à vous, et l'audace peut-être de l'autodidacte.
Mais moi, j'ai de la chance d'être autodidacte. Au début, j'étais très mortifié, j'étais complexé, parce que je n'avais pas fait mes études. Je voyais des collègues orchestrateurs qui disaient tout de suite do, mi bémol, etc. Je disais, mais j'entends ça, mais j'ose pas le dire. Et finalement, je bénis la grâce de m'avoir rendu autodidacte, de m'avoir permis d'être un autodidacte, parce que je suis assoiffé, j'ai tout le temps envie, je suis curieux. Et autant de Bach, de Mozart que des Beatles, que de Marvin Gaye, que de certaines chansons de Claude Nougaro, tout m'intéressait. Et je me suis rendu compte très rapidement que je ne pouvais pas vraiment évoluer musicalement si je ne lisais pas et je n'écrivais pas l'alphabet de la musique, qui est limité à 7 notes, donc tout le monde sait. Et je me suis jeté dans le déchiffrage parce que ça me permettait de découvrir toute la musique que mon professeur de piano ne donnait pas à découvrir.
Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec ces classiques? On a l'impression un peu à la Gainsbourg que vous les respectez, vous les vénérez, mais ils ne sont pas sacrés eux non plus, et vous vous donnez le droit de les reprendre, de les recomposer, de les rétravailler. Vous vous êtes jamais refusé, je crois, de reprendre des thèmes de ces grandes musiques pour recomposer la musique à votre manière, le cinéma et vous. D'ailleurs, l'aventure a commencé avec une variation autour de Punchelli, hein, pour oui. Sauf qui peut, à la demande de Godard.
À la demande de Godard, il voulait que je prenne 8 mesures de l'ouverture de l'acte 2 de Punchelli et il voulait que je la réorchestre. Bon. Après ça, nous avons un peu évolué, j'ai écrit de la musique personnelle, mais ça m'a appris une chose, comme je venais de sortir après 8 ans d'orchestration, j'avais fait 2 années sabbatiques pour apprendre le contrepoint et la fugue, et je venais de sortir de ces études. Et ça m'a donné tout d'un coup une possibilité d'appliquer ce que je venais d'apprendre. C'est-à-dire comment ne pas dire un thème, le présenter le en progression tout le long d'un film parce qu'il va être joué à la fin. Donc c'était vraiment passionnant de travailler sur quelque chose d'imposé. Mais j'ai aussi utilisé la basse de la Passacaille de Bach dans un film qui s'appelle La Putain du Roi de Axel Corti. Récemment, avec Xavier Dolan, qui est grand amateur de musique répétitive, contrairement à moi, il m'a parlé de musique répétitive. Je lui dis, écoute, moi je connais un compositeur de musique répétitive qui est vraiment très, très intéressant. Il s'appelle Jean-Sébastien Bach. Et j'ai pris un prélude du clavecin bien tempéré que j'ai orchestré en l'étendant et sur lequel j'ai rajouté des contrepoints. Donc, emprunter finalement, mais toute la musique classique, toute la musique est une série de vols, de larcins entre un compositeur et son prédécesseur. Et ce sont ces vols-là qui nous permettent, nous, de trouver notre langage et d'évoluer. Et quand on emprunte quelque chose à un compositeur, on lui rend hommage.
Il y a aussi tout le travail que vous avez mené autour de Bach, toujours et encore dans le patient anglais. Oui. Comment vous avez procédé là ?
Eh bien là, c'est un hasard. Anthony Minghella voulait utiliser l'aria des variations Goldberg, donc le premier morceau, joué par Glenn Gould. Mais la scène étant très longue, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas mettre ce morceau en boucle éternellement. Et je me souviens, c'était pas très loin de la finition de la musique, il m'a dit « je voudrais que tu composes un prélude ». Et ça m'a pris très longtemps de le faire. On se rend compte comme c'est difficile de faire du Bach à trois voix quand on n'est pas Bach. Et j'ai écrit donc ce petit prélude qui s'appelle Convento de Sant'Anna, en hommage à Bach.
Plongé dans votre musique, Gabriel Yared, voilà en tout cas comment le cinéma, à travers Godard pour commencer, et puis tant d'autres, est devenu le territoire d'un non-cinéphile. Tour à tour, 37-2 le matin, L'Amant, Le Patient Anglais et le talentueux Mr. Ripley. Travailler avec des réalisateurs français comme Jean-Jacques Haneau, Claude Zidi, Étienne Chatillez, c'est une chose, mais vous avez aussi travaillé avec de grands réalisateurs américains notamment. Pourquoi en 1996, un réalisateur comme Anthony Minghella, appuyé par un studio comme Miramax, vient vous chercher, Gabriel Yared ? Qu'est-ce qu'il va chercher dans la facture Yared ou dans la touche française ? Comment se fait la rencontre ?
On s'est fiancés d'abord. En faisant une publicité ensemble pour le premier téléphone portable de l'époque, qui était un mastodonte. Il est venu me voir parce qu'il aimait beaucoup ce que j'avais écrit pour 37.2 le matin et pour L'Amant. Et surtout qu'il m'avait entendu dire que j'aime être investi dans un projet depuis le début. Donc ça l'avait beaucoup intéressé. Il m'a rencontré donc pour cette publicité. Après, on s'est beaucoup parlé. Et j'ai découvert un homme d'une grande culture, très humble, mais d'une grande culture littéraire et musicale aussi. Il avait une passion pour Bach, comme moi. Et il savait parler musique, mais sans jamais intervenir dans le processus de composition ou même d'enregistrement. Et il était venu me voir pour le patient anglais en me disant « Je vais te donner des clous, des indices. » Voilà, les indices pour le patient anglais, pour moi, c'est L'Orient, c'est Puccini. J'ai dit « Pourquoi Puccini ?» Il m'a dit « Pour l'élégance de la ligne mélodique et pour l'harmonie. » Et Jean-Sébastien Bach. Voilà, c'était les trois indices qu'il m'avait donnés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et j'ai composé la musique avant qu'il commence à tourner les images. Et j'ai accompagné, évidemment, on dit toujours, parce que souvent on peut penser que je travaille comme ça sur l'esprit du film, mais que je n'approfondis pas. Quand j'ai fait ma thématique, une fois que je l'ai terminée, après je travaille image par image sur la dramaturgie, sur la couleur, sur tout ça. Donc il y a eu on a travaillé pendant 10 mois ensemble.
C'est un réalisateur britannique avec lequel vous avez travaillé une première fois pour Le Patient Anglais, mais que vous avez retrouvé. Il y a eu combien? 3 films réalisés ensemble?
4. 4, parce qu'il y a eu Le Talentueux Monsieur Ripley, il y a eu Retour à Cold Mountain. Après ça, il y a eu un film qui s'appelle Breaking and Entering, par effraction, où il a eu la bonne idée de me faire travailler avec un groupe de rock qui s'appelle Underworld. Mmh. Et on a fait la musique ensemble. Et après ça, on a commencé à travailler sur une série télé qui s'appelle Lady Detective First Lady Detective Agency, qu'il a tourné au Botswana. J'ai été le retrouver là-bas. Et malheureusement, il est mort en faisant le deuxième épisode.
Et de lui, vous pourriez peut-être dire ce que Benex disait à propos de vous, c'est-à-dire qu'il était celui qui savait mettre en image, que vous êtes celui qui savait mettre en son ce que lui mettait en image. Jean-Jacques Benex dira de vous, j'ai le sentiment d'avoir trouvé l'équivalent avec des notes de mon univers. Avec Benex, vous ferez là 3 films ensemble, la lune dans lequel niveau, 37.2 le matin, et puis IP5, hein, l'île au pachyderme.
Oui,
ouais. Oui. Autre collaboration fidèle, autre amitié de cinéma et de musique, c'est celle que vous avez commencé à mener avec le jeune réalisateur canadien, cette fois Xavier Dolan. Vous avez composé la musique de 3 de ses films, Tom à la ferme, Juste la fin du monde et The Life and Death of John Donovan. Vous êtes là tombé sur un os quand même avec ce jeune homme, hein, un réalisateur qui aime tellement la musique qu'il écrit lui tous ses scénarios en stéréo, la tête sous le casque.
Oui. Oui. En même temps, le grand problème avec Xavier au départ, ça a été que lui n'écoute que de la musique de film. Et moi, je pense que les réalisateurs devraient s'ouvrir à autre chose que la musique de film, parce que la musique de film n'est qu'une petite héritière d'un grand passé. Alors, il y a eu ce problème au départ, c'est qu'on ne s'est pas rencontrés sur ce premier film, Tom à la ferme. J'ai reçu le film avec une demande, donc Xavier Dolan, une très belle lettre qu'il m'a envoyée par email en me disant qu'il aimerait beaucoup travailler avec moi, mais qu'il avait tapisser le film de musique dite temporaire, qui sont vraiment des pièges pour les compositeurs, parce que d'une certaine manière, les réalisateurs s'habituent au rythme de ces musiques, à ce qu'elles disent, et on nous enlève notre souffle. Alors, je lui ai expliqué que j'écoutais simplement pour me renseigner sur ce que je cherchais à peu près, mais que je ferais autre chose. Et j'ai fait autre chose. Le film d'après, on s'est rencontrés entre-temps. 9 mois après Tom à la ferme, on s'est rencontrés. Le film d'après, il m'a demandé d'écrire des musiques avant le tournage. Et là, petit à petit, on a trouvé une sorte de dialogue possible. Parce que quand un réalisateur propose à un compositeur qui est libre, et qui est, comme je le suis d'ailleurs, qui est libre et qui a son propre langage, de suivre ce qui existe déjà d'autres compositeurs qui ont composé pour d'autres images, c'est aberrant, complètement aberrant. Donc, sur Juste la fin du monde, on a travaillé vraiment ensemble, et sur The Death and Life of John F. Donovan, j'ai commencé très tôt, j'ai commencé en mars 2016 et j'ai enregistré la musique en juillet 2017. Pour vous dire le temps passé pour dialoguer ensemble avec ce jeune réalisateur dont Je pense d'abord beaucoup de bien, et puis je suis très touché de ressentir comme il évolue d'un film à l'autre.
Alors je comprends ce besoin de liberté du compositeur, mais en même temps le cinéma, c'est le royaume de l'image, et la musique crée aussi ses propres images. Vous l'évoquez, vous ne composez jamais ou rarement une fois le montage du film terminé, vous écrivez au contraire en amont, parfois même sur une simple idée, sur un thème, alors que le tournage n'a même pas commencé. Comment va se faire ensuite la rencontre entre ces deux imaginaires, imagés? Comment faire pour que toutes ces images musicales et de cinéma ne s'entrechoquent pas, qu'elles se parlent, qu'elles se correspondent?
D'abord, il y a ce processus de collaboration en amont avec le réalisateur qui fait qu'il est au courant de ce que je suis en train de faire, je lui fais des propositions, il écoute et après on découvre ça avec les images. Mais il y a un long travail où on cisèle ces trouvailles-là sur chaque image, sur chaque scène. Il y a beaucoup de musique que je laisse tomber d'ailleurs. Je pense qu'il est très important pour un compositeur, je n'aime pas les classifications compositeur de musique de film, je suis un compositeur pour le cinéma, pour les images. Mais en tant que compositeur, je fais un long travail de recherche, et même si certaines parties que j'ai faites, qui sont très très belles, ne correspondent pas après coup aux images, je laisse tomber ces musiques-là. Mais je fais un travail vraiment de joaillerie après sur les images, c'est-à-dire que on fait ça, j'écoute bien, j'écoute les images, je les regarde, et puis au moment où je travaille, je ne les regarde plus. Parce que j'aime travailler avec ce que je retiens des images. Je ne travaille jamais avec devant moi, sur un ordinateur, les images qui défilent. Parce que je pense que ce qu'on appelle la synchronisation, qui est la seule chose qu'on retient de la musique de film, sinon il n'y a rien à apprendre dans la musique de film, que ça. Mais je pense que souvent elle est accidentelle et qu'elle tombe beaucoup mieux quand elle n'est pas voulue, quand elle n'est pas cyniquement désirée.
Un beau mariage réussi, celui de la bande originale de Juste la fin du monde, par Nostalgie, extrait de cette musique que vous avez composée. Nostalgie, Gabriel Yared, vous pouvez nous raconter comment il est venu, d'où il est venu?
Voilà par exemple une musique, et je l'entends à la musique. Voilà une musique qui vient des images. Ce n'est pas une musique que j'ai composée avant. Et d'ailleurs, il y a un certain vide musical qui est parfois tout à fait nécessaire pour accompagner des images. Mais là, je sais que c'est une musique que j'ai faite après et sur les images. Ce n'est pas une musique que j'ai conçue à l'avance.
Alors que, si on prend un autre extrait de la bande originale du film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde.
Ah oui.
Ah oui, quoi?
Oui, ça, évidemment. Comme il voulait de la musique répétitive.
Oui, là, on avait fait boucle.
Voilà, je n'ai pas envie de musique répétitive parce qu'elle est souvent très vide. Elle est vide de sens, elle est vide de musique aussi. Mettre en boucle comme ça la même cellule, c'est terrible. C'est hypnotique, mais c'est très gênant pour la musique.
Donc vous n'êtes pas un fan de Philip Glass ou de Steve Reich?
Steve Reich, complètement, je suis un fan, mais pas Philip Glass. C'est deux musiques complètement différentes. D'ailleurs, Steve Reich lui-même dénonce cette appellation de musique minimaliste en ce qui le concerne. C'est un musicien très inventif et rythmicien, enfin qui chaque fois se renouvelle. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc là, j'ai, au lieu d'avoir une mesure de Bach, il y a chaque fois deux mesures d'une cellule, et j'ai rajouté des contrepoints au-dessus pour dire à Xavier, voilà, c'est une musique répétitive qui peut servir pour cette fameuse discussion qui va finir par un orage. Et effectivement, cette musique accompagne parfaitement la scène. «
Le minimaliste Steve Reich qui sera justement en concert ce week-end, week-end spécial Steve Reich à la Fondation Louis Vuitton. Ce n'est pas vous trahir que de lui faire un clin d'œil et d'annoncer ce grand week-end en préparation.
Au contraire, j'aime beaucoup
Paris.
Ce qu'il fait.
Quant à vous, Gabriel Yared, c'est donc le 9 qu'on vous retrouvera à la Philharmonie pour ce concert, ciné-concert que vous êtes sûrement encore en train de préparer ou de peaufiner en ce moment, où vous raconterez, ferez écouter à la fois votre vie et ces œuvres que vous avez composées pour le cinéma. Vous avez aussi beaucoup travaillé, Gabriel Yared, pour le ballet. C'est une autre phase de votre travail.
Oui.
Pour Caroline Carlson, pour Wayne McGregor, pour Roland Petit aussi.
Oui.
C'est peut-être une autre manière de travailler, mais est-ce qu'elle engage pour vous le même type de responsabilité de la part du compositeur?
Oh oui, oui, puisque nous sommes par notre rythme, par nos harmonies, par nos constructions, ce qui détermine les chorégraphies à venir. Donc, très souvent, la musique est ce qui vient en premier, ce qui n'est pas le cas dans le cinéma. Alors, pour un compositeur, c'est une liberté totale. Ça peut être aussi un esclavage total, comme c'était entre Tchaïkovski et Marius Petipas, qui l'obligeait à tenir en une seconde vingt, etc. Mais c'est vraiment la liberté totale, et puis l'invention aussi. On peut beaucoup plus inventer dans la musique de ballet que dans la musique de cinéma.
Il y a une chose que vous ne nous avez pas encore racontée, mais on ne pourra peut-être pas tout se dire en une petite demi-heure, c'est comment vous travaillez toujours seul, dans votre studio, devant votre piano. Comment ça se passe? Le piano, ça reste votre instrument.
Oui, c'est-à-dire, j'ai besoin de toucher le piano pour commencer à trouver les cellules initiales, enfin, qui tombent sur moi. Souvent, ce n'est pas moi qui trouve. On a l'impression que c'est moi. Mais souvent, quand j'écoute ma musique, je ne sens aucun sens de la propriété. Je n'ai pas l'impression que c'est moi. Mais je commence par des petites cellules, et puis après, pour pouvoir les développer, pour pouvoir leur donner de l'élan, je me sens beaucoup mieux de le faire sur le papier. Parce que l'oreille est un mauvais juge, et qu'elle ne peut développer que ce qu'elle entend. Alors que le papier vous donne le goût du risque, et aussi de l'architecture musicale. Donc c'est beaucoup de travail sur le papier, et c'est pas directement les thèmes qu'on entend, c'est souvent des recherches pendant des heures pour trouver quelque chose, et quand même quand j'ai trouvé quelque chose, je cherche quelque chose pour le contredire, jusqu'au moment où c'est lui qui ressort le vainqueur.
Gabriel Yared à la Philharmonie de Paris, le 9 décembre à 20h30 dans la grande salle Pierre Boulez. À la Philharmonie, donc, pour un concert accompagné du London Symphony Orchestra. Et puis il y aura aussi des images extraits des films pour lesquels vous avez été le compositeur de ces musiques. Vous avez choisi parmi la centaine de films pour lesquels vous avez travaillé ceux qui vous sont peut-être le plus chers et le plus représentatifs de votre palette, de votre diversité. Merci beaucoup, Gabriel Yared.
Merci beaucoup.
Merci à vous.